Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans ce podcast, La Matrescence. Si vous ne connaissez pas le terme matrescence, je vous invite à écouter l'épisode numéro 1 qui vous explique presque tout sur ce phénomène ou du moins sa définition. Je suis Clémentine Sarla, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation, mais surtout maman d'une petite fille de 18 mois, Ella.
Maman, papa.
J'ai voulu mettre des mots sur le vécu des femmes, notamment autour de la maternité. La matrescence transforme la vie des mères, des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en et sans tabou. Dans ce troisième épisode, nous allons parler d'un métier très peu connu en France, parce que cette semaine, du 22 au 28 mars, c'est la semaine mondiale des doulas. C'est donc un épisode consacré à ce métier, parfois controversé, en France en tout cas, que font les doulas. Pourquoi parler des doulas dans le podcast de la matrescence, me direz-vous? Eh bien simplement parce que ces deux mots ont été inventés par la même personne, Dana Louise Raphael. Cette célèbre anthropologue américaine, décédée en 2016, a introduit ce terme et cette profession aux États-Unis en 1973. Le mot doula vient du grec et signifie « au service de ». Vous l'aurez compris, la doula est au service de la mère ou future mère, mais pas que. Aux USA, si vous suivez des stars américaines sur les réseaux sociaux, vous les verrez sûrement partager le fait qu'elles ont accouché à la maison, accompagnées de doulas, ou à l'hôpital, entourées de ces femmes. Cette semaine d'ailleurs, c'est Hilary Duff qui a montré une vidéo sur Instagram de la naissance de sa fille dans l'eau, où on la voit entourée de doulas. Il y a Meghan Markle, que vous connaissez tous ou toutes, future maman, qui a fait savoir qu'elle prendrait une doula pour l'accompagner. Alors le contexte outre-Atlantique, en Angleterre et en Australie, est différent. Les doulas sont reconnues et acceptées par la société. En France, c'est une toute autre histoire et c'est un sujet sensible. Pour préparer cette émission, j'ai lu le mémoire d'une sage-femme étudiante, Marie Maillot, datant de 2013, intitulé « Faut-il avoir peur des doulas ?». Il y a une extrême méfiance de la part des sages-femmes et de l'ordre des médecins dans leur ensemble envers les doulas, et nous en parlerons dans cet épisode. Les doulas, dans l'histoire en France, ont même été apparentées à une secte. Il est par exemple impossible de quantifier exactement le nombre de doulas dans l'Hexagone, puisque c'est un métier peu connu et surtout non reconnu dans un cadre légal. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Julie Toutain, doula sur la région toulousaine, qui a opéré un virage 360 degrés après la naissance de sa fille pour devenir doula. Vous allez en apprendre beaucoup sur ce métier, et j'aimerais ajouter, et ce n'est que mon avis parce que j'ai été touchée par les doulas, moi, dans un contexte où c'était aux États-Unis, donc évidemment dans un contexte différent. Mais pour moi, une doula, ça ne fait pas partie d'un mouvement hippie ou bobo écolo, comme on peut dire, ou comme on peut le penser et le définir en France, mais plutôt, ça fait partie d'une forme de respect envers les femmes et de leur corps. Et j'irais même plus loin, pour moi, c'est du féminisme. Je sais que les sages-femmes auraient à cœur de pouvoir avoir plus de temps avec leurs patientes. Malheureusement, en tout cas, à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas, car elles sont en manque de moyens humains notamment, mais ça on en parlera dans un autre épisode. Avant de commencer et de vous laisser écouter, je voulais prendre le temps de vous remercier. J'ai reçu des dizaines de messages de mamans qui mettent enfin un mot sur leur expérience, sur leurs mots d'ailleurs. J'ai eu aussi des papas. Alors merci parce que c'était le but. J'ai reçu des messages de couples qui ont écouté ensemble. Je sais que ça peut déboussoler, que c'est pas simple les premiers pas dans la maternité, dans la parentalité en général. Et je suis ravie que ça puisse délier un peu les langues et enlever de la culpabilité parce que c'est absolument pas ça qu'on recherche quand on devient parent, même si c'est un sentiment qui est malheureusement un peu trop ancré en nous. Voilà, donc c'était le but de ce podcast. Je vous souhaite une très bonne écoute. Merci Julie d'être avec moi par écran interposé parce que tu es à Toulouse et moi à Bordeaux, j'ai pas pu me déplacer mais c'est pas grave, on va avoir une belle conversation. Alors je pose toujours cette question aux personnes qui interviennent dans le podcast, mais à toi je vais pas la poser parce que je sais que tu sais ce qu'est la matrescence. En revanche, ce qui m'intéresse de savoir, c'est est-ce que tu as ressenti un gros changement d'identité à la naissance de ta fille?
Alors oui, ça m'est arrivé. Alors ça a mis un petit peu de temps à venir, à ce que je comprenne un petit peu tout ce qui se passe par là. Mais moi, dans les changements vraiment intenses que j'ai vécu, c'est surtout celui de... J'ai eu l'impression de grandir à nouveau, d'avoir une nouvelle étape d'évolution dans ma vie. J'ai dû revoir un petit peu l'enfant que j'ai été, surtout beaucoup. J'ai dû découvrir qu'il y avait plein de choses que je devais régler avec cet enfant-là. Et ça a été vraiment un gros bouleversement, en fait, cette vie de maman. Et d'ailleurs, c'est ça aussi qui a fait que je me suis tournée vers ce métier que je fais autour de la naissance, parce que ça a été un énorme chamboulement pour moi. J'ai eu l'impression que tout devenait clair et qu'il y avait des choses qu'il fallait vraiment que j'aille chercher, parce que... On manque de soutien quand on est jeune maman, et j'ai vraiment vécu ça comme quoi je devais vraiment aider les futures mamans et être là en tout cas pour elles.
Et alors je sais que tu sais ce qu'est la matrescence, mais toi et moi on le sait, en France les doulas sont très très peu connues. Comment est-ce que tu définirais le métier que tu fais ?
Alors pour moi vraiment la doula c'est un soutien pour la future maman, mais également pour toute la famille, l'accompagnant, la fratrie aussi, et ça peut même toucher la grand-mère, le grand-père, etc. C'est vraiment une amie, je dirais, une amie intime du couple, de la famille, de la future maman, et ça va vraiment être quelqu'un qui est là pour que ce moment-là soit vécu de façon pleinement consciente et satisfaite de la part des parents.
Et toi, tu as eu une petite fille. Est-ce que tu as eu une doula pendant ton accouchement ?
Non, je n'ai pas eu une doula, mais en tout cas, parce que je ne connaissais pas à l'époque. c'est vraiment quand elle est née que j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui touche la périnatalité. Mais très, très franchement, pour mon deuxième bébé, j'aurai une doula.
du coup raconte-moi comment est-ce que t'es devenue doula, qu'est-ce qu'il faut faire pour être doula en France, parce que c'est très particulier en France.
Oui, alors en France c'est pas un métier qui est reconnu, en tout cas pas par l'État français, et c'est un métier qui est un petit peu difficile parce que justement comme il est pas reconnu, il y a quelques dérives forcément, puisqu'il n'y a pas de cadre légal autour de ce métier-là. Donc, la plupart des... Enfin, en tout cas, beaucoup de professionnels de santé et surtout des sages-femmes ont quelques réticences par rapport à ce métier parce qu'on a un peu l'impression que la doula va prendre un petit peu le rôle de la sage-femme. Or, normalement, c'est très, très complémentaire et surtout, la doula ne doit pas avoir de vocation médicale. Donc, elle n'a pas à faire un accompagnement sans suivi médical, à donner de conseils médicaux aux parents, ni dans l'idéal à être présente à un accouchement à domicile, par exemple, lorsqu'il n'y a pas de sage-femme. L'idée, c'est vraiment de rester dans ce cadre-là pour pouvoir justement faire en sorte que les doulas soient de plus en plus reconnues en France.
Donc, en gros, toi, tu fonctionnes en binôme avec une sage-femme si jamais tu fais un accouchement à la maison.
Oui.
On parle d'un accouchement à la
maison.
Oui.
Dans un accouchement à la maison, oui, pour moi, c'est fondamental parce que ça m'impose une certaine responsabilité, en fait. C'est-à-dire que s'il y a une femme qui accouche seule à la maison et que je suis présente et qu'il se passe quoi que ce soit, ça engage ma responsabilité à moi. Et comme je ne suis pas quelqu'un de médical, je ne peux rien faire, entre guillemets. Donc, je préfère dire non si quelqu'un fait le souhait de faire un accouchement à domicile avec seule la présence de la doula.
Je sais que ça se fait dans certains... Ça se fait...
Dans certains pays, ça se fait. Il y a des doulas qui y vont sans, notamment au Royaume-Uni, beaucoup, sans présence médicale. Mais ce sont bien souvent des doulas qui travaillent beaucoup avec des médecins, obstétriciens ou même des sages-femmes et en fait qui sont là... Et dès qu'il y a quoi que ce soit, le médecin prend le relais. Donc, c'est assez différent. En tout cas, en France, on n'a pas assez de cadre et la doula n'est pas assez reconnue pour que, en tout cas, moi, personnellement, je me permette de le faire, quoi.
Et alors, qu'est-ce que tu as suivi comme formation pour pouvoir être doula ?
Alors, moi, j'ai fait la formation de l'Institut Doula de France. Je sais qu'il en existe plusieurs en France, mais pour moi, hein, personnellement, celle-ci, en tout cas, était vraiment très complète. Il y a un programme qui est assez je dirais lourd, mais dans le bon sens du terme, parce que vraiment on apprend énormément, notamment sur la physiologie du corps de la femme, sur la physiologie de la naissance, on a des modules sur l'allaitement. C'est vraiment des modules très très complets. Et on a aussi toute une partie qui est vraiment tournée vers l'écoute de la future maman. On a toute une partie vraiment qui est centrée sur la personne. Et je trouve que, je sais qu'il y a par exemple des organismes qui font des formations en ligne, et je suis assez réticente entre guillemets à ça, parce que au-delà du contenu de ma formation et de ce que j'ai appris qui était conséquent, ce qui m'a vraiment appris et qui a vraiment formé un bagage énorme dans ce que j'ai aujourd'hui, c'est vraiment le partage d'expériences et les échanges qu'on a pu avoir entre femmes, entre mamans, entre futures mamans ou même certaines qui n'étaient pas encore mamans, et certaines doulas déjà actives. Et ça, je trouve que c'est extrêmement riche, et que ça, c'est vraiment pour moi la moitié presque de ma formation, quoi.
Et en gros, pour être doula, sincèrement, ce qui est vraiment la composante essentielle pour vous, c'est un accompagnement psychologique, on va dire. Comme tu dis, vous n'avez pas les compétences médicales. Vous, c'est la partie psychologique, émotionnelle. Et on sait, surtout pour la naissance, que le mental, c'est comme pour les sportifs de haut niveau, ça joue énormément. Au quotidien, c'est ça, ton travail, c'est de bien connaître les personnes que tu accompagnes pour pouvoir pour t'adapter au mieux à leur psychologie.
Oui, alors surtout qu'en plus, il y a 80-90% des naissances presque qui se font à l'hôpital, enfin en maternité, à l'hôpital. Et on sait que quand même, dans ce cadre-là, on a affaire à un nombre de personnes incalculables, puisque ce n'est pas toujours la même personne qui nous suit. Donc, le rôle de la doula, c'est vraiment d'avoir une personne constante auprès du couple, auprès de la famille, et d'avoir quelqu'un qui a toujours le même discours. En fait, d'avoir un espèce de roc qui bouge pas. Et donc, oui, j'ai une grande, grande partie émotionnelle. Je suis là, du coup, pour les parents, avant la naissance, pour tout ce qui est questionnement. L'idée aussi, c'est vraiment de... J'ai une grosse partie information, parce que j'en ai beaucoup. Et cette partie-là, en fait, c'est vraiment... nécessaire pour que les familles se sentent prêtes en fait à vivre l'accouchement qu'ils ont envie.
En gros, tu les aides dans leur projet de naissance.
C'est ça, dans leur projet de naissance, et vraiment quand ils savent pas trop s'ils veulent accoucher à la maison, à la maternité, sur un plateau technique, le but c'est vraiment de discuter ensemble et de prendre un petit peu les besoins, de voir vraiment ce qu'ils ressentent, leurs angoisses, etc., etc., et de vraiment avoir un projet qui leur ressemble et qui ressemble à vraiment ce qu'ils veulent. Et ça, c'est important.
Et finalement, là, on parle beaucoup de ce qui est avant et l'accouchement. On sait aussi qu'en France, pour vous, les doulas, c'est très compliqué de rentrer dans une salle d'accouchement.
Oui.
Est-ce que tu as déjà assisté à un accouchement en France, en milieu hospitalier ?
Pour l'instant, je suis bloquée au milieu hospitalier. On va essayer avec un couple que j'accompagne, mais c'est très compliqué en France, parce que les maternités sont assez réfractaires en fait à la doula, puisqu'ils la voient un petit peu comme entre guillemets une empêcheuse de tourner en rond. Et pourtant, moi, j'aimerais vraiment y aller et le montrer au moins une fois que je suis vraiment là pour faire le lien entre la famille et le personnel médical, et que je suis vraiment là en toute bienveillance. Et que ça peut fonctionner, en fait. Mon but, c'est pas d'arriver comme une guerrière en disant, voilà, je vais pouvoir rentrer et cogner. Non, mon but, c'est vraiment que les parents, ils se sentent bien et qu'ils aient tous leurs choix respectés, et que le personnel de santé, justement, ait le moins de choses possibles à faire en termes de gestion émotionnelle, d'explication. Voilà, c'est vraiment de faire le lien entre les deux. Donc, c'est dommage, mais...
Oui, parce que c'est gagnant-gagnant, finalement, même pour le personnel hospitalier.
Oui, bah, surtout qu'en plus, moi, je suis convaincue, là, donc, mais je peux pas en fait me permettre de faire quoi que ce soit. Mais après, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a autant de doulas que de femmes, et pour peu qu'on soit tombé sur un établissement qui ait eu une mauvaise expérience, moi je connais une sage-femme à domicile qui ne prend pas de doula, par exemple, parce que enfin qui refuse de faire des accouchements à domicile avec une doula, par exemple, parce qu'elle a eu une très mauvaise expérience. En cela, je ne peux pas vraiment lui en vouloir. Si elle a vraiment eu une mauvaise expérience, c'est dur pour elle. C'est un peu compliqué, mais c'est, je pense, le manque de reconnaissance du métier en France qui fait qu'on n'a pas de reconnaissance et donc de cadre qui fait qu'il y a des dérives. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a. Et du coup, c'est pour ça que les gens sont aussi réfractaires.
Et comment est-ce que tu expliques le fait qu'en France, dans notre culture, ce soit... il n'y ait pas de cadre et que ça ne soit pas reconnu ?
Bah, là, c'est vrai qu'on est dans une société d'hypermédicalisation, de toute façon, je pense. Et on est assez réfractaires à tout ce qui est du domaine du bien-être. Ça commence à s'ouvrir petit à petit. Et il y a beaucoup de médecins qui travaillent avec, mais j'ai un peu l'impression quand même qu'on est dans une société où on n'arrive pas en fait à faire et le scientifique et l'alternatif en même temps. Alors que c'est deux choses qui pourraient vraiment fonctionner super bien ensemble, finalement, mais on a un petit peu de mal parce que souvent, tout ce qui est méthodes alternatives sont assez réfractaires à la médecine. Et inversement, la médecine est un petit peu réfractaire à tout ce qui est alternatif. Donc, ça a du mal à fonctionner ensemble. Et pourtant, ça aurait de belles conséquences, puisque je pense que la médecine est vraiment quelque chose d'incroyable, qui a sauvé l'humanité, je pense. Même si on l'utilise parfois à mauvais escient. Et je trouve qu'ils y gagneraient... Enfin, la médecine, en général, ils gagneraient vraiment beaucoup à travailler... de cette manière-là aussi, en partenariat avec plein de choses. Mais...
Et là, tu l'as mentionné, on parlait dans la salle de naissance et avant, mais c'est vrai aussi que votre rôle en postpartum est essentiel parce que, comme j'ai expliqué dans le premier épisode, en France, on a le droit à une sage-femme pendant 12 jours et c'est précieux, mais c'est clairement pas assez. Alors que toi, tu proposes, en tant que doula d'ailleurs, vous proposez des accompagnements beaucoup plus longs sur l'après, pour être présent pour la famille dans son ensemble.
Alors clairement, un accompagnement de doula, il peut aller de la conception jusqu'aux 3 ans de l'enfant à peu près. Mais en général...
Oui, donc ça n'a rien à voir avec les 12 jours.
Oui, voilà, c'est ça. En général, c'est vrai qu'on est très présente à partir du 4e mois de grossesse et surtout vers la fin de la grossesse. Et en postpartum, surtout en postpartum immédiat, donc il y a les 12 jours, nous c'est vraiment les 10 premiers jours qui sont fondamentaux, mais les 10 premiers jours, il faudrait passer presque tous les jours, pendant quelques heures avec la famille, quoi. Ce qui est impossible pour une sage-femme, et puis ça se comprend, hein. Mais ces 10 premiers jours-là, ils sont hyper importants, et je pense que même ça va vraiment dans la période des 40 jours qu'on appelle la période des relevailles. Donc la période où la maman doit vraiment être bichonnée, ce qui est assez compliqué avec un papa en général qui reprend le boulot au bout de 10 jours, puisque ben, après elle se retrouve seule avec son nouveau-né, et des fois les plus grands, à tout gérer. Donc le rôle de la doula, il est émotionnel pendant cette période-là, mais il est aussi logistique, c'est-à-dire que la doula, elle va venir, elle va préparer un petit repas à la maman, elle va aller chercher les plus grands à l'école si vraiment il y en a besoin. Ça va vraiment être une aide logistique aussi. Et c'est ça qui est important.
Ouais, vous êtes les petites fées. Enfin, je pense que toutes les mamans qui ont accouché connaissent cette solitude et surtout quand le papa reprend le travail très vite. Si on n'a pas la famille, si on n'est pas entouré, c'est vrai que d'avoir quelqu'un de confiance qui a tout suivi, c'est pas que c'est précieux, c'est indispensable.
Ouais, c'est ça. En plus, c'est quelqu'un qu'on connaît, donc on a déjà créé du lien avec elle. Donc ça, c'est chouette. Et y a vraiment ce besoin-là de prendre soin de cette jeune mère. Parce qu'il y a quelque chose qu'on oublie assez souvent, c'est qu'une maman qui a été enceinte, on l'a vénérée, on l'a mise sur un piédestal, on l'a traitée comme une petite chose fragile et une princesse. Et en fait, à partir du moment où elle devient maman, on se focalise vraiment sur son bébé et on oublie vraiment de dire à la mère « mais continue de te reposer, mais toi tu... » Vraiment, il faudrait qu'elle soit sur pied tout de suite, à fond, alors qu'elle doit vraiment prendre ce temps-là. C'est... un mois, 40 jours après la naissance de son bébé, ils devraient être pour la maman, vraiment. Pour qu'elle soit bichonnée, pour qu'on continue en fait à la traiter comme quand elle était enceinte. Parce qu'elle doit nourrir son enfant, parce qu'elle doit récupérer son accouchement. C'est pas rien, mine de rien. Parce qu'il faut qu'elle, qu'elles prennent soin d'elles. Et c'est très difficile dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, où on demande, on exige des mamans qu'elles soient rapidement sur pied, qu'elles reprennent leur activité tout de suite, qu'elles soient à fond. Il y a rien qu'à voir.
Qu'elles s'occupent de tout.
Qu'elles s'occupent de tout. Mais il y a rien qu'à voir 2 mois et demi de congé maternité. C'est insignifiant. C'est insignifiant. Enfin, en tout cas, de reprendre. Pas de congé maternité, mais de reprendre 2 mois et demi de l'enfant, c'est insignifiant. On a à peine le temps de rencontrer cet enfant, de se familiariser à lui, qu'on doit déjà reprendre le travail. Enfin, la société n'est pas aidante, en tout cas, pour que la mère prenne soin d'elle et prenne soin de son bébé correctement.
Et c'est pour ça aussi que je voulais faire un épisode sur les doulas, parce que t'auras pas écouté l'intro, mais dans l'intro, j'explique que ce mot a été créé par Dana Raphaël, qui a créé la matrescence. Donc c'est bien, on est complètement dans le sujet. Mais pour moi, c'est hyper important, parce que dans la matrescence, c'est justement ce changement d'identité qui est aujourd'hui prouvé neuroscientifiquement. Mais c'est aussi parce qu'il y a une grande solitude, parce qu'on est déboussolé, surtout pour un premier enfant, parce qu'on est isolé. Et que j'avais envie, à travers ce podcast, de montrer qu'il y a des solutions qu'on connaît très peu en France. C'est ce que j'explique aussi dans l'intro, où je dis que peut-être que c'est un peu trop considéré comme quelque chose de hippie ou baba cool d'avoir une doula, contrairement à ce que ça l'est aux États-Unis ou en Angleterre, en Australie. Et donc, pour moi, concrètement, pour aider la matrescence, les doulas, vous êtes... Ouais, vous êtes les petites fées, quoi.
Oui, alors en plus, il y a un truc qui est hyper important, je trouve, c'est que une maman qui est maternée pendant qu'elle materne son enfant aura beaucoup plus de chances d'être maternante, justement. Parce que si on prend soin d'elle, c'est tout simple, hein, de toute façon, elle aura beaucoup plus de facilité à prendre soin de son nouveau-né. Et donc ça, c'est super important. Mais c'est vrai que dans d'autres civilisations, même cultures, je dirais, dans certaines cultures, je pense par exemple à certaines tribus en Afrique où la maman n'est jamais seule, c'est-à-dire qu'elle accouche de son bébé, mais il y a la mère, la grand-mère, tout le monde est là, et elles sont constamment là pour la future maman. Et ces liens entre femmes, ils sont vraiment fondamentaux quand on donne naissance à un bébé. En France, quand on donne naissance à un bébé, c'est vrai qu'on est extrêmement seul, et surtout, il y a moins cette solidarité entre femmes, je trouve, quand d'autres futures mamans viennent, on échange et tout, c'est très différent que ce truc d'être là aux petits soins pour la maman qui vient d'accoucher et de lui apporter, je sais pas, des petits plats un peu tous les jours, des choses comme ça. Ça se fait peu. Et pourtant, c'est pas grand chose. On fait un plat pour notre famille, on rajoute 3 portions de plus et on la dépose à la copine d'à côté. C'est pas grand chose. Mais il manque un petit peu cette essence de sororité, en fait, qu'on peut retrouver ailleurs. Et donc, la doula...
Moi, j'aime bien dire mamarité.
Oui, c'est très joli.
La mamarité.
C'est très joli. Oui, parce que la sororité, c'est plutôt les liens entre femmes. Là, ça va vraiment être les liens entre mères. Donc, c'est joli.
Ouais, parce que moi, je suis la première, hein, avant d'être maman, j'avais aucune idée de la solitude que pouvait ressentir une mère après l'accouchement. Enfin, je pense que ça t'a fait un peu la même chose, mais... Je savais pas que quand on va à la maternité, en fait, on dérange plus qu'autre chose. Ouais. Les nouvelles mamans.
C'est ça.
Et donc, il faut devenir mère pour le comprendre. Dis-moi si je me trompe, mais j'ai vu que tu as été formée par Michel Audan, que j'espère recevoir dans ce podcast.
J'ai fait une formation avec lui, 2-3 jours.
Alors, tu peux me raconter un peu son approche, qu'est-ce que ça a apporté pour les doulas? Parce que je donne un peu de contexte. Michel Audan, c'est un très grand gynécologue obstétricien qui a quasiment 90 ans aujourd'hui, mais qui a écrit des super bouquins. Je ferai un épisode avec lui, je vais essayer absolument de l'avoir en interview. Mais vas-y, raconte un peu ton expérience avec lui.
C'est une formation sur 3 jours et qui est ouverte à tout le monde. Pas que en tant que doula. Il fait des formations doula, mais au Royaume-Uni maintenant uniquement. Donc, il faut pouvoir y aller. Il fait des formations sur 3 jours qui sont ouvertes à tout le monde. Donc, ça, c'est très chouette. Donc, moi, je me suis retrouvée là avec des doulas, des sages-femmes, des ostéopathes, pas mal de gens qui sont du milieu médical. Donc, c'était assez sympa. Et puis, il y avait aussi des gens, des professeurs de yoga prénatal qui venaient vraiment se renseigner. C'est des échanges, en fait. Alors maintenant, il est assez âgé, il fatigue assez vite. Donc, sur les 3 jours, en fait, lui, il nous donne un contenu de formation qui est exclusivement dispensée le matin. Et l'après-midi, c'est Liliana Lammers qui est avec lui, qui est une doula, en fait, qui a eu ses 4 enfants qui sont nés en Angleterre et qui sont nés des Michel Audin. Et, en tout cas, accompagnée par Michel Audin. Et c'est lui qui lui a dit un jour, toi, il faut que tu sois doula. Et l'a balancé un peu dans ce milieu-là, alors qu'elle n'y connaissait rien. Elle, par exemple, typiquement, elle n'a pas eu de formation. Elle est riche de ses expériences d'enfantement et de ce que Michel Audin lui a apporté. Et aujourd'hui, c'est une des doulas les plus célèbres. Et surtout, elle accompagne énormément d'accouchements à domicile. Et elle, typiquement, elle fait des accouchements à domicile sans l'aide de personne, quoi. Enfin, elle n'a pas besoin de sage-femme, mais bon, c'est un autre contexte au Royaume-Uni de toute façon. Mais voilà, et donc lui, il est très... il est vraiment à écouter, cet homme-là, vraiment. Je pense que j'ai eu une chance énorme de l'entendre. Et d'ailleurs, le soir, je rentrais et mon mari et moi, on parlait pendant des heures de ce que j'avais entendu dans la journée. Et je lui disais, mais tu te rends compte? Et lui, il était hyper passionné par ce que je lui racontais. Parce que, en fait, moi, j'ai eu tout ce côté vraiment classique de l'accouchement, physiologique, etc. Mais lui, il apporte vraiment une balance scientifique qui est énorme. Parce que lui, il parle d'épigénétique, d'épigénome. Il rentre vraiment dans des détails scientifiques qui sont énormes. Et il est vraiment très, très intéressant, quoi. Très, très intéressant.
En fait, lui, ce qu'il dit, pour que je vulgarise un peu pour les gens, qu'en gros, on peut courir à la fin de l'humanité si on continue d'accoucher de la manière dont on accouche, dans des milieux beaucoup trop sceptiques. Et si vous avez des enfants qui ont beaucoup d'eczéma, qui ont beaucoup d'allergies, ça peut aussi venir de la façon dont vous êtes né. Et lui, voilà, il étudie ça avec des biologistes. Ouais. Ça, c'est très intéressant parce que, comme tu dis...
Tout à fait. Et puis, ça repose sur beaucoup d'études, en plus... qui sont parus dans des grands journaux scientifiques qui sont hyper reconnus. Lui, il est vraiment à fond pour l'accouchement à domicile pour plein de raisons, en fait, pour que ça se passe bien, puisque globalement, et dans beaucoup de pays, on se rend compte que moins on fait d'actes sur la maman qui est en train d'accoucher, moins elle risque d'avoir d'actes, en fait, tout simplement. Moins on en fera, si je peux dire. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a par exemple, dans des pays tels que la Hollande, où les femmes accouchent globalement souvent à domicile et plus qu'en hôpital, il y a un taux de césarienne qui est très, très faible.
C'est 30%. Il y a 30% des femmes qui accouchent à domicile.
En
Pays-Bas. Ouais, mais c'est quand même... En France, on est à moins de 2%.
En France, si on veut accoucher à domicile, c'est un combat. Hein, clairement, la maman qui veut accoucher à domicile, elle n'est pas sûre d'avoir une sage-femme qui la suive. Et pour peu que la première grossesse ait eu, une césarienne ou un déclenchement, c'est quasiment impossible de trouver une sage-femme. Et pas pour des raisons, parce qu'il y a plein de sages-femmes qui le feraient, mais pour des raisons d'assurance, en fait, tout bêtement, parce qu'elles ne sont pas assurées pour faire des accouchements à domicile.
On a un épisode avec une sage-femme qui accouche à domicile, donc ça sera bien d'en parler. Je sais qu'il y a des études magnifiques qui ont été faites aux États-Unis sur l'apport des doulas. Est-ce que tu peux nous en parler un peu
Des études
dans la tête des gens.
Oui,
tu sais, sur les pourcentages qu'il y a par rapport aux césariennes, à la douleur.
Il y a des chiffres assez parlants. C'est vrai que ça a été calculé... Et c'est très, très chouette. Alors, c'est tout simple. Hein. En général, l'accouchement avec une doula, il est beaucoup plus simple. On réduit de 50% les risques de taux de césarienne, de 25% la durée du travail, de 60% l'utilisation d'une péridurale. Donc ça, je trouve ça assez énorme quand même. 40% les utilisations d'ocytociques. Alors, les ocytociques, c'est l'ocytocine de synthèse hein, en général qu'on met pour déclencher des fausses contractions. L'utilisation des forceps est diminuée de 30% en général. Donc ça aussi, je pense que ça pèse dans la balance, surtout quand on veut que notre bébé vienne au monde le plus doucement possible. En général, on utilise plutôt moins 30%. à peu près de médicaments, quels qu'ils soient, pour soulager la douleur. Alors, ça peut être les gaz hilarants ou autre, quoi. Et après, sinon, ça a un impact hyper positif sur l'allaitement aussi, la doula, mm-hmm. puisque en général, il y a presque 90% de femmes qui ont été accompagnées par une doula, surtout en période postnatale, allaitent après général 6 semaines. Et après 6 mois, on est quand même à 67%, sachant qu'on frôle les 5% d'allaitement après 6 mois en France. Donc, ouais.
Ah oui, c'est une sacrée différence quand même.
C'est conséquent, je pense. Parce que typiquement, l'allaitement, en tout cas, c'est en France une grosse lacune au niveau professionnel de santé. Ça, ouais, c'est clair et net. Pour moi, il y a vraiment un souci avec ça. Ils ne sont pas assez formés. Et en général, quand ils le sont, c'est fort d'expérience personnelle, en fait. C'est ou un médecin qui a allaité ou dont la femme a allaité et qui s'y connaît comme ça, quoi.
Et toi, tu as accompagné combien de familles?
Moi, pas beaucoup. Enfin, très peu, parce que là, je viens de commencer, en fait, mon activité. J'ai fait énormément d'accompagnement à l'allaitement, mm-hmm. donc ça faisait pas mal d'accompagnement, entre guillemets, postpartum. Donc, je baignais quand même là-dessus. Mais là, je suis à 3 familles d'accompagnement, donc c'est pas énorme.
D'accord. Et c'était domicile ou c'était
j'ai
hôpital?
J'ai pas
eu de domicile
encore.
D'accord. Donc tu as été avant très présente avant et après. Et alors, comment on s'organise quand on est doula? Là, c'est vraiment une question pratique. Pour si jamais il y a des femmes qui ont une vocation, parce que
c'est ça. Alors pour l'accouchement en général, on peut être appelé à n'importe quel moment. Après, c'est important d'être très dispo les premiers jours qui suivent l'accouchement, surtout. C'est vraiment dans cette phase-là D'accord. que la maman elle va avoir besoin. Et même, je dirais, de prévoir de passer au moins tous les jours, voire tous les deux jours, au domicile de la maman qui vient d'accoucher. Ou à la maternité, quand elle est en maternité. Parce que là, ça pose moins de soucis, du coup, de venir en maternité après l'accouchement. Oui, voilà, tu gênes un petit peu moins. Puis bon, du moment que ça rentre, enfin, ça interfère pas dans leur big, ça passe très bien. Mais oui, c'est surtout, il faut vraiment prévoir d'être très dispo au moins les 10 premiers jours. Et après, il y a quand même une disponibilité émotionnelle qui est là, c'est-à-dire... que certes, par exemple, il y a des parents qui vont prendre un forfait 10 rencontres et on va se voir 10 fois. Mais peut-être que après un rendez-vous ou à un moment donné, il y a quelque chose qui va ressortir et la maman va avoir besoin de téléphoner à la doula et de passer peut-être une heure au téléphone avec elle. Et ça, ça fait pas partie des rencontres, mais ça fait partie du job. Et donc, c'est important d'avoir une disponibilité émotionnelle aussi, d'avoir une capacité d'écoute quand même particulière, notamment d'écoute active.
Et toi, concrètement, qu'est-ce que tu proposes dans ton accompagnement?
Alors moi, c'est vraiment, vraiment en fonction des familles. Ça vraiment dépend D'accord. de leurs besoins, de leurs ressentis. Et puis, ça peut vraiment se modifier à tout moment. C'est-à-dire qu'une famille peut partir sur 10 rencontres et puis, on va se rencontrer vachement au début. Et puis... bon, petit à petit, ça va peut-être un peu s'espacer parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils ont moins besoin. Et puis, ça va se réintensifier dans le postpartum. Ou alors, ça va être des familles qui vont vraiment, vraiment avoir besoin de rencontres en postpartum et d'autres un petit peu plus avant l'accouchement pour se sentir vraiment prêt le jour de l'accouchement. Parce qu'en fait, le but de la doula et son rôle, c'est vraiment que finalement, les parents n'aient pas besoin d'elle le jour de l'accouchement. Quand on a l'impression d'avoir bien fait son job, c'est qu'elle peut être là le jour de l'accouchement, mais l'idée, c'est de se mettre dans un coin avec un bouquin et de rien faire du tout, quoi. Et que les parents...
Ou de prendre soin des enfants.
Ou du papa, des fois, ou de l'accompagnant en général, qui est peut-être en panique à ce moment-là. Mais normalement, lui aussi, il doit se sentir super serein. Mais après, bon, on ne peut jamais... Mais voilà, l'idée, c'est vraiment d'être là en sous-marin, entre guillemets, si présence à l'accouchement il y a, quoi.
Parce que là, du coup, concrètement, tu passes le relais à la sage-femme.
Oui,
c'est elle qui...
Dans l'acte médical, oui. Après, dans l'idéal, même sur une sage-femme, L'idée, c'est de pas trop interférer quand même avec une maman qui accouche, quoi, et de lui laisser la pleine conscience et la pleine liberté de ses mouvements. Donc la sage-femme, en général, la sage-femme à domicile, elle suit la maman un peu comme une ombre. Elle essaie de voir un petit peu ce qui se passe, et puis la doula, elle est dans son coin, elle bouquine son bouquin, et puis elle est calme, quoi. L'idée, c'est aussi ça, c'est d'être une présence hyper rassurante. Poser, ou si t'as une doula qui court un peu partout, ah, elle est en train d'accoucher et tout, c'est pas super aidant.
Oui, est-ce que dans ton accompagnement, tu parles de la sexualité? Je parle de ça parce que en France, encore une fois, on sait très peu qu'une naissance peut être orgasmique, on sait très peu que la naissance est liée.
Oui, c'est un acte sexuel, la naissance, hein, tout simplement.
Parce que c'est les mêmes organes.
Oui.
Et tu en parles, oui, ça, un peu dans tes accompagnements.
C'est hyper important. Les gens sont surpris. Après, tu sais, généralement, les gens qui prennent l'accompagnement d'une doula, c'est souvent des gens qui sont ouverts et qui ont déjà fait une recherche. Souvent, c'est ça, hein, en fait. Il y a quand même déjà une ouverture de base. Mais il y a quand même, il y a quand même des gens surpris. Et puis, mais c'est intéressant d'expliquer ça et c'est pas toujours évident. C'est vrai qu'il y a des gens, ils reçoivent pas toujours positivement le fait qu'on dise « Mais vous savez, si vous vous masturbez pendant l'accouchement, ça risque de le rendre beaucoup, beaucoup moins douloureux, quoi. » Et c'est hyper tabou, de toute façon, en France. C'est hyper tabou. C'est hyper tabou. Oui. On voit ça vraiment... comme on donne naissance à un enfant, en fait, on se rend pas compte. On le voit négativement, en fait, alors qu'en fait, une naissance peut être orgasmique, une naissance peut se faire sans douleur, vraiment. Après, il y a un côté un peu religieux, hein, aussi, tu enfanteras dans la douleur. C'est quelque chose de hyper...
Ça pèse.
C'est hyper ancré dans notre culture et c'est encore là. Et aujourd'hui encore, moi, je me souviens personnellement à un rendez-vous avec ma sage-femme et mon mari, où la sage-femme lui a dit « Non, mais attendez-vous à voir votre femme souffrir horriblement. » Et il lui a dit « Non, mais je sais pas, je pense quand même. Non, non, mais là, vous ne la verrez jamais dans un tel état, elle va souffrir horriblement. » Et je me dis « Mince, en fait, c'est comme ça. C'est juste, on va souffrir et puis c'est tout. » Et pourtant, il y a d'autres alternatives. Mmh. Ça peut vraiment être un moment intense.
Oui, on ne dit pas que 100% des naissances peuvent être orgasmiques ou sans douleur, mais il y a une possibilité que ça existe. Et donc, c'est quand même plus facile de se préparer.
Et même faire l'amour les derniers mois de grossesse, bon, c'est bien aussi avant, hein, il n'y a pas de souci, mais je veux dire, faire l'amour juste avant l'accouchement, ça aide, en fait, ça prépare l'utérus et ça aide vraiment à ce que la douleur soit moindre. Mais après, il y a des livres qui sont sortis. J'ai pas de titre en tête, mais j'en ai lu un qui était hyper.
Ah si, bah je le donnerai parce qu'il y en a un qui est.
J'ai pas le titre exact en tête, mais j'en ai lu plusieurs sur la naissance orgasmique.
Il y en a un qui s'appelle, tu sais, avec Anna May Gaskin, qui est une grande sage-femme américaine.
Très bien.
Elle en parle beaucoup dedans.
Très bien.
C'est très intéressant. C'est pour une naissance naturelle ou quelque chose. Accoucher naturellement. Mais ça ne parle pas que de la naissance sans péridurale ou à la maison. C'est en général... En fait, comme pour vous, votre but, c'est de redonner le pouvoir aux femmes.
Après, on ne dit pas aux femmes qu'il faut accoucher sans péridurale. Mais on défend quand même cette réappropriation du corps de la femme, quoi. Parce que typiquement, en France, on est dans une mentalité où déjà, la femme, elle accouche pas. On l'accouche. C'est le gynécologue qui l'accouche, c'est la sage-femme qui l'accouche, ou alors le postier qui l'a accouchée à la poste quand elle a eu son bébé tout de suite. Enfin, c'est jamais la femme qui accouche toute seule. Elle a vraiment besoin d'aide. Donc là, l'idée, c'est vraiment que la femme se réapproprie cette part d'elle-même et de féminité qui fait qu'une femme est capable d'accoucher toute seule et sans l'aide de personne. Même pas de son mari, hein. Même si la présence est souvent grandement appréciée, une femme, elle est capable d'accoucher toute seule. Elle a cette capacité, cette puissance-là. Et il faut vraiment, en France, qu'on donne aux femmes, qu'on réapproprie aux femmes ce pouvoir-là, en fait. C'est important.
Bah oui, ça passe par, tout ça à passe fait. Par tu vois, des podcasts comme ça.
Des petites graines des qui sont semées petit à petit.
Exactement, exactement. Est-ce que c'est compliqué de gagner sa vie en tant que doula en France ?
Oui. On ne vit pas d'être doula, c'est clair et net. Parce qu'un accompagnement, c'est à peu près 450 euros. Et il en faudrait au moins 3 par mois pour y arriver. On en est loin. On en est loin. Pourtant, il y a beaucoup de femmes qui accouchent, mais c'est pas assez connu.
Et bah, concrètement, comment est-ce que tu t'organises dans ce cas-là ? T'as un autre métier à côté ?
Alors moi, concrètement, là, non. Et j'ai le soutien inébranlable de mon mari et on a une situation financière qui est confortable parce qu'en fait, j'ai fait aussi le choix parallèlement de m'occuper de ma fille jusqu'à ses 3 ans, de ne pas la faire garder. Donc, l'idée, c'est
d'être... Vous n'avez pas de frais de garde ?
On n'a pas de frais de garde, mais par contre, du coup, je ne travaille pas pour être avec elle. Donc, c'est un choix de vie, ça, c'est à nous. Mais il y a beaucoup de doulas qui ont un autre boulot à côté, hein, c'est tout à fait possible, ou un mi-temps, ou voilà. Mais nous, moi, c'est mon choix personnel, c'était ça. Donc, on a la situation de mon mari qui nous apporte un confort, et puis là, il y a mes apports à moi. Alors moi, je suis doula, mais j'ai une... Et souvent, on observe que les doulas ont des multi-casquettes, en fait. Parce que moi, je suis aussi... Je suis aussi monitrice de portage. Donc, d'accord. Je fais des ateliers de portage ponctuellement. Mais je fais aussi pas mal de petites conférences, de petits cafés parents aussi. Donc, ça qui m'apporte une petite rémunération en plus. Et également, et ça rentre pas dans mon cadre de doula, j'ai vraiment cloisonné les deux activités, mais je fais de l'accompagnement naturopathique, grossesse, allaitement et jeune bébé. À savoir pourquoi ça rentre pas dans ma casquette de doula et pourquoi j'ai vraiment cloisonné les deux activités, c'est parce que ça peut passer pour un accompagnement médical. Pourtant, la naturopathie, c'est de la médecine, mais
non conventionnel.
Alternative et non conventionnelle. Donc, je suis obligée de le cloisonner et de ne pas le mettre dans la même activité, en fait.
Donc, d'accord. Ouais, donc, en fait, tu jongles. Aujourd'hui, en France, quand on veut être doula, il faut s'accrocher.
Ouais.
Et il faut jongler avec plusieurs activités, quoi.
C'est ça. Alors, ça peut être des activités autour de la parentalité, de la périnatalité. Je fais aussi du conseil parental. Et bien souvent, les familles. Voilà, qui font l'accompagnement avec moi, font l'atelier de portage, des choses comme ça. D'ailleurs, pour les parents que j'accompagne, j'ai toujours des tarifs plus avantageux, forcément. Ils ne payent pas le prix d'un atelier que je ferais payer à des parents que je n'ai jamais vus, par exemple. Parce qu'il y a, voilà, y a un lien et puis ils ont déjà un accompagnement qui est là, donc c'est important. Mais il y a plein de doulas qui sont multicasquettes comme ça. Tu vas avoir des doulas qui font aussi du yoga. Alors, c'est pareil, le yoga, ça rentre pas dans l'activité de doula, mais qui font aussi quelque chose qui fait écho, mais qui est dans une autre dynamique. Tu as des doulas qui sont très dans les énergéticiennes, ou voilà, plein de choses. Tu as des doulas qui font aussi des massages de femmes enceintes.
Ouais, en fait, tu as des courants, comme dans plein de métiers, des approches différentes, en fait, avec un tronc commun.
C'est ça. L'idée, c'est, voilà, on se forme à plein de choses pour être légitime de plein de choses et puis proposer tout un panel de services qui s'adresse aux futurs parents et aux jeunes bébés. Voilà.
Et est-ce que tu as une idée de combien vous êtes de doulas en France ?
Alors, j'ai pas trop d'idées. Je sais pas du tout. Je me suis pas trop penchée sur la question. C'est intéressant comme question. J'aimerais bien savoir combien on est de doulas.
Je mettrai dans l'intro.
Ouais, c'est une question intéressante. Et je me suis pas posé la question, mais c'est vrai que. Alors après, il y a les doulas. Parce qu'il y a doulas, il y en a qui font des formations où on les appelle accompagnantes à la naissance ou accompagnatrices périnatales, quelque chose comme ça.
Mais alors, mais les accompagnantes périnatales, elles ont des diplômes reconnus, par contre.
Ça dépend.
C'est différent.
Ça dépend.
Oui, mais il y a des écoles reconnues.
Oui,
c'est ça. Bah, y a plein de choses, du coup, en fait. Hein.
Et ouais, il y a plein de choses qui se... Mais c'est bien. Plus il y aura de... plus il y aura de choses comme ça, mieux ce sera pour les femmes, surtout.
Parce qu'on est oui, ça veut dire qu'il y aura des options et du savoir.
Ouais, c'est ça. L'idée, c'est qu'enfin, les femmes se sentent écoutées, parce que c'est ça, il y a un gros manque d'écoute, en fait. Je trouve, et ça... c'est la faille. Mmh.
Et qu'est-ce que, c'est ma dernière question, qu'est-ce que les parents recherchent le plus quand ils prennent une doula, selon toi, selon ton expérience?
Je pense qu'il y a ce côté rassurant d'avoir la même personne. Je pense que c'est vraiment hyper important parce qu'en France, on a le médecin, on a la sage-femme. Et puis alors, dans un service, quand on rentre dans un cycle autour de la enfin dans une maternité ou dans un hôpital, on voit 15 personnes différentes. Donc d'avoir quelqu'un qui est vraiment qui a le même discours du début à la fin et quelqu'un qui rentre dans le cercle intime et à qui on peut faire confiance, je pense que ce que recherchent les parents, c'est ce côté un peu rassurant. D'avoir quelqu'un qui ne bouge pas, entre guillemets, et qui va les accompagner du début à la fin de cette aventure de jeunes parents, en fait. Parce que c'est assez effrayant, entre guillemets, de devenir... C'est excitant, effrayant, mais il y a ce côté où on va rentrer dans un truc où tout le monde va nous dire quelque chose de différent. C'est vrai, il y a vraiment... tout le monde va dire quelque chose de différent et c'est hyper moi personnellement ça m'avait vachement marqué, ouais, ça m'avait vachement marqué, j'avais trouvé ça très très déstabilisant. Donc l'idée, c'est d'avoir quelqu'un qui soit toujours là et quelqu'un qui soit prêt à écouter n'importe quand aussi. L'écoute, je pense que c'est vraiment fondamental dans une société où on se sent pas assez écouté, où typiquement à la maternité on écoute nos souhaits, mais si ça déroge un petit peu au fonctionnement, c'est très compliqué. C'est très compliqué de, je sais pas, de par exemple quand on veut une délivrance du placenta naturel, c'est quelque chose qui est pas bien vu dans les maternités.
Et c'est, ça prend plus de temps.
Ça prend plus de temps. Il y a des risques. Alors on est dans une politique de prévention énorme, hein, en France. On est vraiment sur une médecine qui est très axé sur le contrôle, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait autant d'examens pour vérifier, qu'on est autant sur la prévention. Alors ça peut être bien pour certains cas, pour certaines maladies, et dans d'autres cas ça peut être vraiment trop présent, c'est-à-dire qu'on va faire des fois beaucoup de prévention pour un petit pourcentage de risque, alors ouais. Que si on en faisait moins, il y a un pourcentage que les choses se passent mieux qui augmente. Et ça, on prend pas assez en compte. Mais bon, typiquement, sur la délivrance du placenta, il y a vraiment une angoisse énorme. C'est très rare qu'on dépasse les 15 minutes, c'est déjà énorme. Mais qu'on dépasse en tout cas les 15 minutes, sachant qu'un placenta, ça peut se délivrer dans les 24 heures. Donc, il y a quand même...
Oui, on n'est pas dans les mêmes délais.
On n'est pas dans les mêmes délais. Parce qu'on est vraiment inquiet. Et la plus grosse inquiétude sur la délivrance du placenta, c'est l'hémorragie massive. Et pourtant, c'est un tout petit pourcentage et on est à l'hôpital. Donc, mais le problème, c'est qu'on a aussi des hémorragies massives parce qu'on a l'utilisation d'énormément en amont d'actes médicaux comme les oxytocines de synthèse, comme parfois le déclenchement. Et ça va augmenter les risques d'hémorragie. Donc, on va arriver sur un risque de délivrance du placenta qui est encore plus grand que si on n'avait rien utilisé. Donc, en fait, tout ça est lié à chaque fois. Hein, mais... En parlant de Michel Audin, il a écrit des livres qui parlent vraiment de ça, de ses actes médicaux. Il y a d'ailleurs, tu as presque dit le nom tout à l'heure, mais « L'humanité survivra-t-elle à la médecine ?» qui est très, très intéressant.
C'est ça, très, je l'ai lu.
Il est vraiment... il est très, très intéressant, ce bouquin-là.
Ben, je le mettrai dans les recommandations lecture dans l'épisode et dans les... à la suite... sur les réseaux sociaux, vous pourrez trouver toutes les références dont on a parlé aujourd'hui dans cet épisode. Merci beaucoup, Julie,
d'avoir
pris le temps entre la sieste de ta fille, d'avoir répondu dans cette semaine consacrée aux doulas dans le monde. J'espère vraiment que ça aura touché des femmes et qui réfléchiront peut-être à solliciter des doulas parce que, bah, parce que souvent, à mon avis, quand on a un deuxième, on en a besoin.
Ouais, c'est clair, avec tout ce qui se passe avec le premier. Et en tout cas, surtout, s'il y a un seul message que je peux dire, que je peux donner aux femmes, aux futures mamans, c'est vraiment croyez en vous et en votre capacité de donner naissance. Vous êtes des mammifères comme les autres vous êtes vraiment capables, quoi.
Enfin, merci beaucoup.
Julie. Avec grand plaisir.
Salut.
Une bonne journée.
J'espère sincèrement que cet épisode vous a éclairé, peut-être donné envie de prendre rendez-vous avec une doula dans votre région. Si c'est le cas, vous trouverez des contacts de doula en France sur le site internet doula avec un S, donc doulas.info. Alors je ne cherche pas dans cet épisode à opposer les doulas aux sages-femmes, vous l'avez compris. Elles sont pour moi complémentaires. Il y aura d'ailleurs un épisode consacré au merveilleux métier que font les sages-femmes, que ce soit en hôpital, en maternité, en libéral ou en accouchement à la maison. Je ne cherche pas non plus à inciter qui que ce soit à prendre une doula. Simplement, je pense qu'il est important de connaître toutes les options qui s'offrent à vous. Renseignez-vous bien avant de choisir une doula. Posez des questions sur son parcours, sa façon de voir les choses. Posez des questions au corps médical, à votre sage-femme, à votre gynéco-obstétricienne, ou obstétricien évidemment. Et puis je reprends les mots de Julie, soyez actrice de votre maternité, c'est le plus important. Voilà, pour suivre Julie, vous avez Instagram, @famillenature, vous avez son très joli site web où vous trouverez toutes les informations. Elle m'a par ailleurs recommandé des femmes à suivre. Elle en a parlé dans le podcast, une qui s'appelle Liliana Lammers, qui a été formée par Michel Audan. Je vous invite à vous renseigner sur ces deux personnes. Je le redis, j'espère que Michel Audan pourra participer à ce podcast, qui est un grand gynéco-obstétricien. Elle recommande aussi Elodie, qui est une doula sur la région lyonnaise. Son compte, c'est doula-mama-fr. Et Lou, alors pardon pour la prononciation, Guiglionda, qui est sur Béziers. Alors tout ça, ce sera écrit dans la description du podcast un peu plus bas. Et elle recommande enfin Yannick Revel, Nayan Doula, qui est une femme, elle, je cite, absolument extraordinaire. Donc vous pouvez aller voir. Je vous mets aussi en lien l'étude, le mémoire qu'a réalisé la sage-femme pour que vous compreniez un peu la méfiance qu'il y a entre parfois ces deux corporations, mais pas toujours, hein, je le dis. Je vous ai mis en lien un reportage sur une doula qui a été fait par l'émission La Maison des Maternelles. Comme ça, vous avez aussi les infos de votre côté pour aller chercher. Voilà. Très bonne journée à vous. Merci d'avoir écouté. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à laisser des commentaires, vos avis sur les applications, les diverses applications. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur iTunes. Ça fait connaître le podcast, c'est important. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci.